Scene one, Apple, take two.
En direct de Cannes, voici La Passion du 7e art.
Bonjour à tous, quatrième jour à Cannes, et ça y est, le festival est maintenant en pleine vitesse de croisière, les files d'attente s'allongent, le café coule à flot, et certains en ont bien besoin car sur les séances un peu plus tardives, on commence à avoir des bâillements, voire même des gens qui dorment. Et aussi, bien sûr, les rumeurs sur la Palme vont bon train dans les couloirs du palais. Alors pour moi, hier, la journée s'est ouverte avec la semaine de la critique, avec le film La Frappe, le premier long-métrage de Julien Gaspard Olivieri. Enzo, donc 19 ans, et sa sœur Carla, 20 ans, livrés à eux-mêmes depuis des années, voient leur équilibre fragile bouleversé quand leur père sort de prison. Enzo, lui, il veut reconstruire une famille. Carla, quant à elle, elle refuse catégoriquement. Et Enzo, il doit affronter une vérité qu'il s'est longtemps cachée à lui-même. C'est un film âpre, tendu, porté par des acteurs d'une justesse troublante. C'est un premier film vraiment qui ne cherche pas à séduire, il cherche à dire vrai et c'est très appréciable. Ensuite, dans l'après-midi, direction La Quinzaine pour Atonement, ou L'Apaisement en français, de Reed Van Dyck. Alors c'est un marine américain qui est hanté par un incident tragique à Bagdad qui va entreprendre de retrouver Nora, la survivante de la famille qu'il croit avoir détruite, pour pouvoir tenter de se racheter. Alors c'est un film de guerre, mais qui n'a rien d'un film de guerre parce qu'il n'y a pas de grosses explosions. Alors un petit peu au début quand on voit les scènes militaires, mais il n'y a pas non plus la partie héroïsme qu'on pourrait retrouver d'un film de guerre. C'est vraiment juste le poids d'un homme qui ne sait pas comment continuer à vivre avec ce qu'il a fait. Et j'ai trouvé ça assez bouleversant comme film. Donc voilà, entre La Frappe, L'Apaisement, ce sont deux films sur des gens brisés qui cherchent une sortie. Et quelque part, voilà, c'est aussi ça un peu que Cannes nous montre. C'est nous rappeler que le cinéma existe pour porter ce que les mots seuls ne suffisent pas à dire. Voilà, et ben je vous laisse avec Pascal maintenant qui va vous parler des films en sélection.
Merci Mathilde, et on poursuit donc avec un certain nombre de films. Aujourd'hui, on en a vu beaucoup pour vous. Le premier, c'est Sanguine, Sanguine à 8h30 le matin, film d'horreur particulièrement sanguignolant, signé Marion Le Corollaire. C'est un film catharsique. Quand on voit ce film-là, combien de fois, face à des situations où on a été agressé, qu'on n'a pas pu répondre parce qu'on était dans le... C'était un client, on a eu l'envie irrépressible de lui exploser la gueule, quoi, grosso modo. Voilà. Donc Margot, elle débute son internat aux urgences où elle peine à s'adapter. Très vite, elle fait face à des patients de son âge, aux symptômes inexpliqués. La récurrence de ces cas exceptionnels l'interroge, d'autant qu'elle observe sur son propre corps des manifestations de plus en plus inquiétantes, à savoir, eh ben, on retourne donc au titre du film, qu'elle perd beaucoup, beaucoup de sang. Mais sans plaie, ça ne s'explique pas, je vous en dirai pas plus, mais la scène d'ouverture avec l'employé, on pourrait dire de McDo, hein, grosso modo, qui est agressé par un influenceur qui a 187 000 vues sur Instagram, combien de fois on ne s'est pas posé la question qu'on aurait bien voulu également se lui sauter à la gorge. Donc, dans la plus pure tradition des films d'horreur, où il n'y a pas que le sanguignolant qui compte, mais également le message politique et social, eh bien Sanguine est une vraie réussite, c'est présenté hors compétition. Ensuite, Soudain, c'était le film d'Amaguchi Ryusuke, donc tout le monde en parlait, ce film, comme étant un possible favori pour la Palme d'Or. Mais après, quand on vous a parlé de Edgar Faraday, qui est un petit peu déçu, Soudain, par contre, c'est une véritable révélation. Ryusuke Amaguchi nous livre son approche par rapport à la directrice d'un établissement pour personnes âgées, un EHPAD qui n'est pas comme tout à fait les autres. Marie-Lou tente d'y instaurer une philosophie de soins innovante basée sur l'écoute et la dignité des résidents, malgré la réticence d'une partie de ses équipes, voire de sa direction au-dessus. Sa rencontre avec Marie, une japonaise metteur en scène qui se bat contre un cancer de type 4, va bouleverser sa trajectoire en nouant une amitié profonde. Les deux femmes engagent ensemble un combat pour rendre possible l'impossible avec donc sa méthode basée sur l'humanisme, l'humaniosité, comme elle dit dans le film. Et à un moment donné, cette directrice qui est campée par Virginie Fira, qui décidément est très présente à Cannes, eh bien, elle tient un discours vraiment sublime. Le film dure 3h15. Franchement, au départ, beaucoup des gens qui étaient autour de moi disaient qu'ils ne tiendraient pas le coup. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont quitté la salle avant. Tonnerre d'applaudissements à la fin. Ryusuke Hamaguchi pourrait très très bien repartir avec une palme d'or. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Parce que pour l'instant, c'est notre favori. Et puis, on a eu une petite surprise quand même. C'est que dans la soirée, il y avait un film d'une heure, de 61 minutes. C'est un format quand même assez peu courant au cinéma et à Cannes. C'était un film qui s'appelle Vol de nuit pour Los Angeles, et c'est un film de John Travolta. Et il y a eu, alors il faut quand même mettre un vrai coup de chapeau à tous les extraits de films pour Peter Jackson, pour Natalie Bay, là pour John Travolta, que réalise le Festival de Cannes, parce que ça dure une dizaine de minutes, et toute la carrière de John Travolta nous a été dévoilée. Il est arrivé, un peu méconnaissable avec son béret blanc, et puis Thierry Frémaux, en grand communicant qu'il est, nous a gratifié d'une palme d'or surprise qu'il lui a remis, et il était très très ému devant une salle qui lui était complètement acquise et qui était debout et qui lui a réservé une très longue standing ovation. Quant au film lui-même, Vol de nuit à Los Angeles, ben c'est manifestement un film qui a été financé par la TWA, parce qu'on voit à peu près le logo de cette compagnie aérienne à peu près toutes les 5 minutes dans le film. Mais c'est, je dirais, c'est un film gentillet, très propre, en plein âge d'or de l'aviation. Jeff, un jeune garçon passionné d'aéronautique, s'envole aux côtés de sa mère pour un aller sans retour vers Hollywood en traversant les États-Unis. Ce qui n'aurait pu être qu'un simple vol devient le voyage d'une vie, entre les plats servis à bord, les cordons bleus notamment, l'attention des hôtesses, toutes jolies et très empathiques, des escales inattendues, des voyageurs hauts en couleur et un passage marquant par la première classe. L'aventure réserve des moments aussi magiques que surprenants, marquant le destin du jeune garçon à tout jamais, qui est bien sûr John Travolta. Et puis, on va continuer avec Si tu penses bien. Si tu penses bien, c'était une autre standing ovation avec des cris quand la réalisatrice Géraldine Nakache est arrivée avec toute son équipe. Il faut dire qu'il y avait du beau monde dans la salle. Il y avait Nice Schneider, Moniane Chokri, Clémentine Salarié, vous me direz oui. Mais c'est tous ceux qui étaient dans le film, au casting. Mais il y avait également Toledano et Nakache, ou l'un des deux, il me semble. Il y avait également Adèle Exarchopoulos et François Civil. Et donc, le film en lui-même, ben, c'est un pervers narcissique hein, qui est bien campé par Nice Schneider. Remarquable d'allure dans ce rôle, et elle c'est qui subit ses attaques, c'est Monia Chokri. Alors on est à Dubaï, Gilles rencontre Jacques, donc Monia Chokri rencontre Neil Schneider. Leur coup de foudre débouche sur un mariage précipité en 3 jours qui révèle vite une fracture profonde. Gilles ne partage pas la foi dévorante de son ami qui est juif. Jacques tente de la soumettre à sa vision du monde avec un mantra aux allures de menace. On tombe sur un vrai pervers narcissique et le film est particulièrement réussi. On a eu la surprise de croiser Géraldine Nakache en sortant et on lui a dit tout le bien qu'on pensait de son film. Elle était encore très émue, elle en a pleuré de cette standing ovation. Et puis il fallait terminer donc, parce que là on est à Cannes Première, avec la sélection officielle et Gentle Monster de Marie Kreutzer. Film allemand. Alors, c'est Léa Seydoux qui est le personnage principal de ce film. Alors, de quoi il s'agit ? Bien, Lucie et Philippe sont heureux. Ils viennent d'emménager avec leur fils dans une maison de campagne près de Munich. Un matin, leur vie bascule lorsque la police se présente à leur domicile pour arrêter Philippe et saisir ses ordinateurs. Bouleversée, Lucie cherche la vérité sur son mari. Qu'est-il réellement ? Doit-elle l'éloigner de son fils ? Est-il un pédophile ou juste quelqu'un qui voulait faire un documentaire dessus ? Ou juste quelqu'un qui voulait se faire de l'argent en relayant ce type d'image odieuse ? Nous, il nous a pas déplu, notamment parce que les assez doux, vraiment magnifique. Et puis, juste après, si tu penses bien, voir Gentle Monster, et ben on est resté avec les monstres. D'un côté, le pervers narcissique, de l'autre, le pédophile. Voilà. Donc, Cannes, quand même, n'est pas trop sur le registre de la comédie pour l'instant, mais en compétition officielle en tout cas. Nous, on retiendra de cette journée le Ryusuke Hamaguchi, soudain, qui est très certainement un film qui sera présent au palmarès de ce 79e Festival de Cannes. À demain.